Réforme. Développement. Impact. Centre Zoé.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On a vu ensemble déjà plusieurs choses, et le point central, je dirais, de cette série, de cet enseignement, et la raison pour laquelle je creuse ces choses-là, et nous avançons petit à petit ensemble, eh bien, c'est que de l'état de notre cœur va dépendre en bonne partie notre vie, nos circonstances. L'Écriture nous dit « garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie ». Alors, dans le premier sens, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont des sources, c'est-à-dire que la vie va jaillir, on peut dire, de notre cœur. Et c'est vrai, c'est totalement juste, mais le même mot qui est rendu par « source », eh bien, il veut dire aussi les limites ou les frontières. Donc, on comprend ici que de l'état de notre cœur vont dépendre les limites, les frontières, le cadre de notre vie. Et on a vu ensemble déjà, et je crois et j'espère que vous avez compris et que vous avez changé de stratégie, mais souvent nous essayons de changer le cadre. On essaye de changer ce qui se passe autour de nous. On peut changer de maison, on peut changer de travail, on peut changer de ville, de pays, on peut changer de mari, de femme, on peut changer beaucoup de choses. On change de voiture, on change tout ce qu'on peut changer. Mais bizarrement, rien ne change. Hein ? On change tout ce qu'on peut changer autour de nous. Et vous savez, même dans l'Église, mais je fais attention parce que je ne veux pas encore partir trop loin, mais vous savez, parce qu'on a senti les limites finalement de l'Église aujourd'hui, et beaucoup, sinon tout le monde aspire après un réveil, après des changements, après la réforme, appelez ça comme vous voulez. Et alors on change plein de trucs. Et alors le pasteur, il se dit, maintenant on ne met plus de costume, on ne met plus de cravate, ça va être le réveil. Maintenant on va changer, on va enlever les décorations, peut-être qu'il faisait un peu trop classique, on va mettre de la couleur, on va changer les groupes de louanges, on va leur donner des batteries, hein, des guitares électriques, on va mettre des projecteurs partout, mais bizarrement rien ne change. Rien ne change. Et si nous revenons tout simplement à l'Écriture, nous avons la réponse, nous avons la clé, comment changer ? Et qu'est-ce qui devrait changer premièrement ? Et bien sûr, nous mettons l'accent sur ce passage-là, mais beaucoup d'autres passages des Écritures, et Jésus lui-même régulièrement venait vers les religieux de son époque. Et leur disait, mais, je paraphrase un peu, mais avec toutes vos traditions, tous vos rites et toutes ces choses-là, vous avez une apparence extérieure, mais à l'intérieur, vous êtes pourri. Et vous pouvez toujours changer votre façon de vous habiller, vous pouvez toujours changer les gens, vous pouvez toujours leur dire qu'ils doivent se tenir comme ci, faire comme ça, ou faire autrement, mais si ça ne change pas à l'intérieur, il n'y a rien, ça ne sert à rien. Ça ne changera jamais, le problème ne sera jamais résolu. Et Jésus visait toujours le cœur des gens. Et quand même Nicodème est venu le voir, ce religieux qui était instruit dans la parole, mais qui était interpellé par Jésus, et un beau soir, il vient le voir, Jean chapitre 3, c'est pas mon sujet, mais bon, on y va, alors on y va. Et il vient voir Jésus de nuit et lui dit, « Maître !» Parce qu'il reconnaît en lui une autorité. Et il va lui poser des questions, il lui dit, « Je reconnais que tu es de Dieu. » Et il va lui poser des questions et Jésus, étonnamment, ne va pas répondre aux questions de Nicodème. Jésus va lui dire, tu dois naître de nouveau. Je ne sais pas si vous aviez déjà constaté ça. Des fois, on dit, oui, la nouvelle naissance, c'est Jésus qui vient, qui dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. L'Esprit vient comme le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va, et tout ça. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de Dieu. Et puis, on passe à autre chose. Mais, vous savez, Nicodème n'est pas venu demander à Jésus comment faire pour être transformé. Il n'est pas venu demander à Jésus comment devenir chrétien. J'aime bien ça. Comment devenir chrétien ? Le but de ma vie, devenir chrétien. Mais c'est quoi un chrétien ? C'est celui qui fait comme tout le monde et qui vient chaque dimanche à l'église et accessoirement mardi et vendredi et samedi et qui fait tout ce qu'on lui demande de faire. Ou bien chrétien, c'est ce que le mot veut dire. Et ça, nulle part, Dieu nous a dit d'être des chrétiens. Chrétien, ça ne vient même pas de Dieu. Chrétien, c'est des gens, quelque part dans une ville, qui ont vu d'autres gens et qui ont dit, ceux-là, c'est des chrétiens. Et ce mot n'existait même pas encore. Ils se sont dit, mais vous nous traitez de quoi ? Mais ils savaient ce que ça voulait dire. En français, ça ne veut rien dire. Mais à l'origine, c'était simplement une abréviation et qui voulait dire, ce sont des petit Christ. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont vu des gens qui étaient comme Jésus et qui faisaient la même chose que Jésus. Et alors ils leur ont dit, vous êtes des chrétiens. Et moi je suis curieux de savoir, où est-ce que je suis en train d'aller aujourd'hui? Je suis curieux de savoir combien de gens qui se disent chrétiens seraient reconnus si on ne disait pas qu'ils le sont, comme ceux qui sont comme Jésus et qui font comme Jésus. Et quand je dis ça, je me pose la question pour moi-même et je me lance le défi à moi-même. Les gens voient-ils en moi Jésus? Est-ce que si je vais quelque part, j'agis, je fais, etc., est-ce que les gens vont dire, lui, il est comme Jésus? Vous savez, parfois, il y a une telle différence, un tel décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on voit. Et il y a quelques années, ça a été un grand problème, j'allais dire, à ma vie chrétienne, à ma vie spirituelle. Parce que je lisais ma Bible et je voyais des choses, et je voyais Jésus qui arrivait quelque part, qui faisait des miracles, Jésus qui arrivait, qui prêchait, les gens se convertissaient, ou alors ils s'énervaient, ils s'opposaient à lui. Et plus tard, les disciples faisaient la même chose, et les apôtres arrivaient dans une ville, et soit les gens se convertissaient en masse, les gens étaient guéris, délivrés, transformés, ou alors ils s'énervaient, et puis il y avait des émeutes, et il y avait des problèmes sérieux, mais il se passait quelque chose. Et moi, on me montrait, on m'apprenait un Jésus qui était gentiment au culte du dimanche matin et à la réunion de prière de la semaine, mais le reste du temps, je n'avais pas trop l'impression qu'il faisait grand-chose et qu'il se passait grand-chose. Et entre ce que je lisais et comprenais et ce qui se passait réellement, je me disais, mais il y a un problème quelque part là. Soit le livre a été un petit peu falsifié en cours de route, ou soit c'est moi qui ai un problème et je suis passé à côté de quelque chose. Et je sais que ça m'a posé problème, entre guillemets, mais vous savez, des problèmes qui sont des bons problèmes. Parfois, on se pose des questions et on peut passer un peu pour rebelle, mais il y a une bonne rébellion, j'allais dire, qui est même initiée par Dieu. Il y a un moment où en soi, on sent, mais ça ne va pas, c'est pas ça. Et on peut parler de l'Église, mais on peut parler plus généralement, même dans notre propre vie. Il y a des moments où je suis là, je fais des choses que j'ai toujours cru être bonnes et vraies. Et il y a un moment où je sens, c'est pas ça. Alors quelqu'un vous dira, rebelle! Repens-toi et continue à faire ce que je te dis de faire. Non, ne faites que ce dont vous êtes convaincu. Et vous savez, même si aujourd'hui ou demain je vous dis de faire quelque chose et que vous n'avez pas la conviction absolue de le faire, ne le faites pas. Oui, c'est dangereux pour un pasteur de dire des trucs comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et je préfère vous dire ça et savoir que lorsque vous faites quelque chose, vous l'avez fait avec conviction et pas juste pour me faire plaisir, parce que ça ne vous servirait de rien. Et souvent, nous faisons des choses, mais au fond, on sent bien que ce n'est pas ça. Et il y a une bonne rébellion, il y a un bon questionnement qui vient parfois et que l'Esprit de Dieu amène parce qu'il veut nous amener autre part. Et parfois, quand on se pose des questions et qu'on ne se sent plus trop dans ce qu'on fait et qu'on ne comprend plus trop ce qu'il en est et qu'on se dit qu'il y a autre chose, bien notre réflexe, ça devrait être, non pas de nous inquiéter ou même de fuir parfois en disant « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» et c'est pas bon tout ça, mais plutôt de nous placer humblement devant Dieu et de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il en est vraiment ?» Est-ce que c'est juste moi qui, peut-être, ça nous arrive aussi parfois, hein, de juste nous-mêmes émotionnellement ou autre, en avoir assez de quelque chose et puis penser que c'est plus ça? Alors Seigneur, montre-moi, éclaire-moi. Et s'il y a autre chose, montre-moi, enseigne-moi, dirige-moi vers cette autre chose. Et nous avons besoin de le faire. Vous savez, l'un des fondements de la réforme protestante, c'était de se réformer encore et encore. C'était d'être toujours en mouvement, de toujours être capable de se remettre en question. Et bien sûr, j'en rajoute un tout petit peu parce que c'était peut-être pas tout à fait encore à l'époque dans la pensée de Luther et Calvin et les autres réformateurs, mais j'irai se réformer encore et encore et suivre la pensée de l'Esprit et se réajuster toujours et encore pour aller là où il veut nous amener. Parce que si nous lisons les Écritures et que nous observons un petit peu, Dieu a un plan pour l'Église, Dieu a un plan pour l'humanité et permettez-moi de dire que Dieu bouge. Et si nous nous arrêtons, eh bien on va être en décalage à un moment donné. Et comme dans plein d'autres domaines, ça peut s'appliquer, il y a des moments où il y a des transitions qui doivent se faire et puis il faut y aller, accompagner, aller dans ces transitions et passer à un autre niveau pour accomplir un but. Vous savez, si on reste toujours au même point qu'on a connu et qu'au départ, eh bien on risque bien de passer à côté de quelque chose. On a besoin d'avancer et de suivre absolument la voie de l'Esprit. Et bon, je referme la parenthèse parce que je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je pense que ça nous aide, n'est-ce pas? Voilà, alors comment va ton cœur? Numéro 6. Et le thème aujourd'hui, le sujet pour aujourd'hui, ce sera en repos. Comment va ton cœur? Il est en repos. Ah, ça fait du bien d'être en repos. Ça fait du bien d'être en repos. Et on va parler un petit peu du remède au stress, ou à l'énervement, ou à l'inquiétude, à l'anxiété, toutes ces choses-là. Vous allez vous dire, oulala, on n'est pas prêt de sortir ce soir. Ne vous inquiétez pas, je serai bref. Même si le sujet pourrait être très vaste et je ne vais pas entrer en détail dans le sujet, je vais me concentrer sur cette notion du repos. Et Dieu nous offre et Jésus nous invite à vivre, à expérimenter le repos. Et bien sûr, certains profitent maintenant ou s'apprêtent à profiter d'un repos pendant les vacances, mais il n'y a pas que les vacances pour se reposer. Et nous devrions être au repos toute l'année. C'est ce que Christ nous propose et ce à quoi il nous invite. Alors on va prendre deux passages pour introduire ce message aujourd'hui. C'est le psaume 23 au verset 2. Et puis on prendra Matthieu 11, 28. Alors psaume 23, verset 2 et Matthieu 11, 28. Alléluia. Vous savez, après ce message, on fera une pause dans la série, justement, pour vous reposer. Mais mon cœur est au repos, mais mon esprit est en ébullition. Parce que c'est notre premier été en tant qu'Église ici. Mais chaque été, il y a des choses spéciales que... Alors, soit que le Seigneur fait, ou soit que je suis prêt à recevoir chaque été. Et je pense que la deuxième formule est la meilleure, parce que ce que nous recevons dépend pour beaucoup de ce que nous sommes en mesure de recevoir. Parce que Dieu, lui, est en mesure de dispenser avec abondance tout le temps. Du 1er janvier au 31 décembre, et bien au-delà, de minuit à 23h59, il n'y a aucun problème pour lui. Il dispense ses grâces à tout moment, mais la question c'est quand et comment sommes-nous disposés à recevoir. Mais en tout cas, je pense qu'on va passer des super moments cet été ensemble, dans la présence de Dieu, dans sa parole, et puis tout simplement dans la communion aussi. Donc on aura des dimanches peut-être un peu différents de temps en temps, et on verra ce que l'Esprit veut nous dire. Puis on reprendra cette série où il faudra être un peu plus sérieux à la rentrée. On va rentrer encore dans plusieurs sujets qu'on a commencé à toucher. Et je veux vraiment qu'on puisse en tirer un plein bénéfice. Et donc avant de faire une pause, on va parler aujourd'hui du repos. Et psaume 23, verset 2, nous dit... On va prendre le verset premier, c'est quand même bien. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Donc ça, c'est une promesse que nous avons. Et c'est ce que David dit ici, mais ça nous appartient. Dieu, s'il est notre berger, s'il est votre berger, vous ne manquez de rien. Et il vous fait reposer dans de verts pâturages. Il vous dirige près des eaux paisibles. C'est vrai qu'il y a le travail aussi. Mais on verra aussi qu'on peut travailler tout en étant dans le repos. Et que Dieu fait un travail. Et d'ailleurs, l'une des conditions à ce que Dieu puisse mener à bien l'œuvre qu'il fait en nous, c'est que nous acceptions de nous mettre au repos. Parce que tant que nous on fait, lui il attend, il dit « Bon, bah écoute, hein, quand tu seras prêt, je pourrais peut-être faire quelque chose. Quand tu auras fini d'essayer de le faire toi-même, je pourrais peut-être commencer à le faire. » Et Matthieu 11, 28, une parole de Jésus, que je veux prendre en parallèle de ça pour poser ce fondement au repos qu'il nous offre et qu'il nous promet. Matthieu 11, 28, et je veux parler d'un repos en particulier. Matthieu 11, 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Et j'ai envie de souligner, « pour vos âmes. » Vous trouverez le repos pour vos âmes. Pourquoi il précise ? D'abord, il dit, vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donne du repos. Ok. Donc, je suis fatigué et chargé, j'arrive et on reçoit du repos. On comprend par là qu'il y a certainement un temps de repos, de restauration, même physique, et de tout ce qui pesait. Et puis, il continue en précisant, pour pas qu'on passe à côté de quelque chose, et il nous dit, recevez mes instructions, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos les âmes. On pourrait remplacer âme par cœur ici. Rappelez, le cœur désigne notre être intérieur. Donc notre âme, notre être intérieur. Donc oui, nous pouvons avoir du repos physique, mais Jésus nous parle aussi de repos pour nos âmes, le repos du cœur, le repos intérieur. Et combien de personnes, et je l'ai mentionné vite fait en passant la semaine dernière, parce que le programme était un peu différent, mais ça s'y prêtait quand même, et parfois on peut se coucher, reposer son corps, ou en tout cas essayer de le faire, mais le repos intérieur, c'est souvent une autre histoire et un autre défi d'arriver à arrêter le flux de pensées, de réflexions, d'émotions, de tout ça qui souvent s'éveille en nous. Et lorsqu'on se pose, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça vous arrive, ça n'arrivera plus, puisque vous allez apprendre à recevoir et à vivre le repos du cœur, mais de vous allonger ou de vous poser en essayant de profiter d'un moment paisible et tranquille. Et puis c'est là que ça travaille à 200 à l'heure à l'intérieur. Ça part dans tous les sens, les pensées, les réflexions. Et puis je devrais faire ci, et puis ça. Et puis finalement, le temps de pause même que vous avez pris n'est absolument pas du repos ni de la pause, parce que vous avez pensé à tout ce que vous deviez faire après. Et souvent, quand les gens prennent des vacances, au début des vacances, ils arrivent à peine à se relâcher, et puis ils disent, bon, bah, je réfléchis à comment je vais passer mes vacances, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais profiter, etc. Et ça peut être une bonne chose, mais parfois ça les énerve un petit peu, ça peut même provoquer un stress. Et puis arrivé en cours de vacances, on réfléchit déjà comment ça va se passer quand je vais rentrer à la maison ou retourner au travail, et on recommence à stresser pour ce qui va se passer après. Et même si on s'est peut-être octroyé quelques heures de sommeil en plus, ou si on a laissé son corps se détendre un petit peu sur une plage ou je ne sais trop où, ou à la montagne, selon les choix de chacun, ou tout simplement à la maison, souvent le cœur, lui, ne s'est pas reposé. Notre âme ne s'est pas reposée. Notre être intérieur est sans cesse sollicité en activité, en réflexion. Et c'est souvent lié au stress, à l'agitation. Et on sait que le repos du corps est indispensable. Vous savez, si vous manquez de sommeil, il y a des maladies même liées au sommeil. Quelqu'un qui ne dort pas ou pas assez, il encourt des conséquences qui peuvent être assez lourdes. Mais une question aussi importante, sinon même plus, est celle du repos que nous avons et que nous octroyons à notre être intérieur. Vous savez, si votre être intérieur est troublé, de toute façon, vous ne vous reposerez pas. Vous pouvez vous coucher, vous pouvez rester toute la journée au lit. Si à l'intérieur vous êtes troublé, vous restez fatigué. Et vous le devenez peut-être même encore plus qu'avant. Et j'ai échangé avec quelqu'un la semaine dernière sur la notion de repos et de jour de repos dans la semaine. Et cette personne me disait, ben, finalement, son jour de repos a été déplacé, donc il a dû refaire ses plans. Et il me disait, de toute façon, ça fait bien longtemps que j'ai plus l'occasion de vraiment me reposer. Bon, je dis, comment ça? Il me disait, bah oui, vous savez bien, vous êtes bien placé, vous êtes chef d'entreprise, et vous avez beaucoup d'activités. De toute façon, qu'on se repose, qu'on ne se repose pas, on se réveille quand même le matin avec beaucoup de pensées dans la tête et de soucis qui nous assaillent, et puis le soir, on n'arrive pas à s'endormir parce que ça recommence. Et puis, je l'ai juste regardé en ouvrant de grands yeux. Et certes, je n'ai pas saisi l'occasion de lui parler, c'est dommage, j'aurais pu ou dû, mais ça m'a frappé comment la réalité de ce monde, et je suis sûr que cet homme n'est pas le seul, est évidente pour certains. Ils se disent, bah oui, mais ça, c'est bien beau d'avoir un jour de repos, mais finalement, c'est la même chose. Dès le matin, on est pris par nos soucis, et jusqu'au soir encore, ils nous accompagnent. Et nous avons besoin de repos pour nos âmes. Et la paix intérieure, je crois que c'est l'une des choses que nous recherchons le plus, ou que les hommes recherchent le plus. Et c'est peut-être une chose qui paraît très difficile à trouver, mais en réalité, elle ne l'est pas tant que ça. Et l'une des grandes quêtes, ça peut être de chercher la paix. Et nous devrions poursuivre la paix. Parce que quand nous sommes vraiment en paix, nous pouvons vraiment nous relaxer, nous reposer. Quand nous avons la paix intérieure, le repos pour nos âmes, nous nous sentons bien, nous sommes tranquilles, quoi que nous fassions. Même si la charge de travail est importante, je suis tranquille. Même si les circonstances et le cadre peut être parfois inquiétant ou dangereux, à l'intérieur, je suis tranquille. Je suis en paix. C'est ce que me promet Jésus, c'est ce qu'il veut m'offrir. Et finalement, la vie est plus simple. Beaucoup plus simple. Et Dieu parle de repos dans Hébreux chapitre 4. Et il en parle dans des termes qui doivent éveiller notre attention parce que s'adressant à son peuple, il fait référence au peuple d'Israël, évidemment, qui était souvent rebelle, hein, et qui avait du mal, beaucoup de mal, jusqu'à être qualifié de peuple courroucé, à suivre et à écouter les instructions. Et voici ce qu'il dit, Hébreux 4, verset 3. Évidemment, Paul parle, il dit, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il a dit cela, quoique ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. Car il a parlé ainsi du septième jour. Dieu se reposa de ses œuvres le septième jour. Mais ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Donc, pour faire simple, hein, parce que ça peut paraître compliqué de prime abord, mais simplement ici, l'une des clés que nous voyons, c'est le verset 6, pardon. « Ceux à qui la promesse était faite d'abord n'y sont pas entrés. Pourquoi ? À cause de leur désobéissance. » À cause de leur désobéissance. Donc si Dieu a privé, entre guillemets, de repos certaines personnes, et je mets des guillemets parce qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui les a privés de repos, c'est que Dieu a été empêché de les amener dans le repos, c'est à cause de leur désobéissance. Mais le souhait, le désir de Dieu, c'est de donner son repos. Et nous comprenons ici qu'il y a un repos pour nous. Et le verset 9 dit, il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Donc oui, un repos physique, on est d'accord. Il y a la question du sabbat aussi, qui souvent va ouvrir des débats en disant, est-ce que c'est le dimanche, le samedi ou un autre jour. Mais Dieu nous donne un principe en disant, trouvez un moment pour vous reposer. Et ça, c'est important, c'est une chose. Mais au-delà de ça, nous avons besoin de ce repos intérieur, un repos, une paix qui va nous garder. Ésaïe 30, verset 15, il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc si vous n'êtes pas reposé dans votre cœur, on pourrait dire dans votre tête aussi, avec toutes les pensées, vous n'êtes pas reposé du tout, et ce n'est pas bon. Mais si nous sommes au repos dans notre être intérieur, alors quoi qu'il arrive à l'extérieur de nous, nous restons en paix, nous demeurons dans sa grâce, sont moins enclins à la fatigue. Et même si on peut être fatigué physiquement parce qu'on travaille beaucoup, ça ne se décline pas en tous les excès qu'on peut connaître. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de fatigue excessive, mais qui n'est même pas une fatigue due à leur activité. Il y a des gens qui font la moitié de ce... Enfin, oui, disons-le, la moitié de ce que je fais, parce que je fais beaucoup de choses. Et je ne dis pas ça pour me prévaloir de quoi que ce soit. Et qui sont fatigués. Mais... Et oui, il m'arrive d'être fatigué, d'avoir fait de longues journées et d'avoir essayé au mieux de remplir mes obligations et mes devoirs. Mais je n'en suis pas pour autant accablé, découragé ou arrêté dans ma course. Et parfois, les gens me disent, mais comment tu fais ? Et je dis, toi, tu as plusieurs vies en une. Et c'est vrai que j'ai plusieurs vies en une. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai une vie qui est très riche. Et je sers un Dieu qui est riche, qui est plein d'imagination, et qui a plein de choses en réserve pour moi et pour chacun de nous. Et parfois, j'en dis, mais comment tu fais ? Chef d'entreprise, père de famille, pasteur, directeur d'école publique, et puis il y a deux, trois autres petites choses à côté. Mais comment tu fais ? Et je voudrais dire ici, absolument pas pour m'en prévaloir, encore une fois, et même s'il y a certainement encore du travail à faire, mais j'ai plutôt tendance à dire aux gens, plutôt que faire beaucoup de choses, un peu, faites peu de choses entièrement. Mais ce que j'ai pu remarquer, et moi-même je suis parfois étonné, et je sais que c'est la grâce de Dieu, c'est que même s'il y a beaucoup de choses qui nous sont données de vivre et de faire, nous pouvons les faire toutes correctement. Et être à la fois bon dans tous ces différents domaines, sans pour autant que ça ne dépende de mes propres forces, et que ça ne me fatigue, et que ça ne m'épuise, et le risque à vouloir faire beaucoup de choses et à se mettre des pressions, c'est que finalement on arrive au burn-out. Et il y a malheureusement même des serviteurs de Dieu qui finissent par, permettez-moi l'expression, exploser en vol, parce qu'ils ont voulu faire, ils se sont mis énormément de pression, ou ils ont accepté qu'on leur mette énormément de pression, alors que Jésus nous parle de repos. Et il y a tout un équilibre à trouver, et vous savez, j'ai déjà l'occasion de vous enseigner sur le travail. On ne va pas être paresseux, il faut travailler. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu nous demande de travailler, et l'un de mes sujets de réflexion encore, et sur lequel je travaille justement encore en parallèle, encore une chose que je fais, ça c'est mon côté auteur et de temps en temps. Je suis en train de réfléchir parce que régulièrement dans les Écritures, il nous est parlé que nous sommes appelés à porter du fruit, à multiplier, à être productif. Et la réflexion qui est en moi, mais il faut la formuler de la bonne façon, sinon ça va faire peur aux gens. Mais vous savez, Dieu nous appelle à être productif. Et c'est un mot que les gens n'aiment pas, productif. Vous savez, quand dans mon activité, je sors des statistiques et je parle de productivité, ça énerve les gens. Ouais, mais pourquoi vous n'avez pas besoin de parler de ça? Ou il ne faut pas afficher ça parce que si... Mais quoi? Dieu nous appelle à être productif. Waouh, bon, c'est pas grave, on revient au repos. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais, non, mais c'est bon. Merci. Non, vous êtes d'accord, mais il ne faut pas que je parte dans trop de directions en même temps, parce que sinon ça ne va pas aller. Mais voilà, nous pouvons et nous devons être productifs, mais ce n'est pas pour autant que nous devrions être débordés, fatigués, indisponibles, irrités, comme malheureusement le sont trop souvent les gens qui se prétendent productifs pour Dieu. Tu sais quoi, si tu veux vraiment porter du fruit et que tu commences à être irrité, énervé, à envoyer les gens balader ou que sais-je encore, eh bien, fais un peu moins de choses et recommence d'abord à te remettre dans la voie droite. Tu sais, c'est dommage et nous avons raté quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de choses comme ça, mais c'est bon. Vous savez, parfois, en tant que fils et filles de Dieu, ou même en tant que serviteur de Dieu, on a raté quelque chose en étant toujours trop occupé et finalement en passant contre l'essentiel. Le plus important pour un homme tout court, une femme tout court ou un serviteur de Dieu tout court, ce sont d'abord les gens. Et si tu fais tellement de choses que tu n'as plus le temps ou tu n'es plus disponible pour les gens, il y a un problème. Et parmi la question des gens, il y a la famille. Et nos activités, c'est une généralité, et particulièrement pour un serviteur de Dieu, ne devrait pas se faire au détriment de notre famille. Et il m'arrive souvent de devoir me poser la question, de réfléchir et de dire, Seigneur, inspire-moi et clairement montre-moi ce que tu veux vraiment de moi. Et en tout cas, je veille et je remercie Seigneur pour des hommes de Dieu qui m'ont attiré mon attention là-dessus, à ce que je fais et tous mes engagements ne se fassent pas au détriment de ma famille. Et j'essaye le plus possible de passer du temps avec mon épouse, avec mes enfants, et à trouver le bon équilibre entre le travail, le ministère, toutes ces choses-là, et la famille. Vous savez, si à un moment, vos activités sont telles et tellement intenses, et que vous pensez tellement vouloir faire, que vous n'avez plus de temps pour les autres, et pire encore, vous n'avez plus de temps pour le Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Et si vous êtes stressé, débordé, toujours en train de courir dans tous les sens, vous rentrez dans la catégorie des fatigués et chargés. Et alors Jésus vous dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Et ce que j'aime, sa deuxième partie, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous savez, on peut faire peu de choses et être fatigué ou agité intérieurement. Et on peut faire énormément de choses et être au repos intérieurement. Et ça, c'est ma prière, c'est mon souhait, c'est ce que Dieu désire pour nous. Que nous soyons productifs, que nous accomplissions des choses, que nous nous épanouissions, que nous développions, que nous soyons une bonne nouvelle pour les gens autour de nous, et que tous les domaines de notre vie soient marqués de sa puissance, de sa grâce, et que nous voyons la prospérité, comme dit la parole, à tous égards, c'est-à-dire que vraiment Jésus soit glorifié dans toute notre vie, et que du fruit soit porté. Mais pour autant, nous devrions et nous devons être au repos dans nos âmes. C'est ce qu'il nous promet. Alors comment faire? Je vais vous donner juste trois grandes lignes de comment faire pour rester au repos. Comment faire pour que notre cœur soit au repos? Premier point, le suivre et lui obéir. On l'a vu, psaume 23, il s'est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. » Donc s'il est mon berger, ça sous-entend que je le suis. En général, les brebis, elles suivent un berger, elles suivent le berger. C'est pas elles qui vont et puis le berger qui essaye plus ou moins de les maîtriser, la brebis suit son berger. Donc si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, il te fait reposer dans de verts pâturages, mais pour ça, nous avons besoin de le suivre. Donc comment avoir la paix intérieure? Comment avoir un vrai repos? Le suivre, lui. Suivre sa voix et ses voies. Sa voix, c'est-à-dire ce qu'il nous dit, et les voies dans lesquelles il nous conduit. Aller dans la direction qu'il nous donne. Et Jésus lui-même disait, recevez mes instructions. Autrement dit, obéissez, suivez ce que je vous dis. Et vous trouverez le repos. ça peut être étonnant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que Jésus nous dise « Ah ben oui, c'est vrai, vous êtes fatigué, donc c'est pas grave, allez vous détendre, reposez-vous, c'est bon, je vais rien vous demander, vous avez besoin de repos. » Jésus nous dit « Suivez mes instructions et vous trouverez du repos. » Donc comment être au repos? Comment trouver du repos? Le suivre et lui obéir. Parce qu'il ne vient pas mettre sur nous un poids encore plus lourd, mais au contraire, lui obéir, le suivre, va nous amener sur la voie qui nous procure le vrai repos, parce que nous sommes en sécurité dans ses voies, parce qu'il promet d'assurer lui-même notre sécurité, notre succès, notre réussite, si nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Dans Jean chapitre 15, il nous est dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est-à-dire que lui-même ne s'attend pas à ce que nous fassions plein de choses. Ce qu'il recherche, c'est notre obéissance, notre disposition à le suivre, à l'écouter, à aller là où il nous amène à aller, à faire ce qu'il nous dit de faire, à poser les actes qui conviennent, mais en fait sans que ça ne dépende de nous. Et ce qui est bon là-dedans, c'est que finalement, si ça ne dépend pas de moi, mais de lui, eh bien la pression n'est plus tellement sur moi. Et j'ai presque envie de dire la pression est sur lui. Parce que c'est lui qui m'a dit « va là-bas et fais ça ». Donc si c'est toi qui m'envoie, c'est toi qui assure. Et quand je dis ça, c'est pas comme s'il exigeait quelque chose de lui, c'est lui-même qui dit qu'il en serait ainsi. Waouh! Ça c'est bon quand même. Hein. Vous savez, souvent on est là à essayer de faire des choses et encore cet après-midi, je survolais un article. Souvent je survole et je prends juste les choses les plus intéressantes du moment. Ça peut gagner beaucoup de temps hein, quand vous lisez des choses, si vous lisez toutes les lignes. C'est encore une technique peut-être pour gagner du temps parfois. Mais je lisais quelque chose qui n'avait rien à voir. Et au milieu, la personne disait, ne faites pas comme si tout dépendait de vous. En fait, elle parlait d'une question par rapport à l'Église. Et elle disait, n'essayez pas de tout faire ou de tout organiser. Bon, c'est de l'anglais, donc il faut trouver des termes qui vont bien. Comme si ça dépendait de vous. Et ça m'a frappé en passant. Et je dis, c'est vrai que c'est une chose que l'on sait, mais qu'on n'applique pas toujours. Et on a besoin de prendre conscience et de réaliser que Dieu a sa part et nous avons notre part. Parce que l'un des excès, c'est de dire, finalement, Dieu fait ci, fait ça, moi je prie juste et puis toi tu feras. Et nous devons être conscients qu'il y a ce que Dieu fait, mais nous avons aussi notre part, qui est de poser les actes qui conviennent, de lui obéir pour que sa puissance puisse se manifester sur les dans notre vie. Mais il nous faut aussi rester à notre bonne place et nous rappeler que les choses ne dépendent pas de nous et que ce n'est pas à nous que Dieu demande de produire ou d'amener le résultat escompté. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui obéir. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être ses instruments, d'être ceux qui vont être le canal par lequel il va pouvoir se manifester. Mais la puissance n'est pas la mienne. Et même la responsabilité n'est pas la mienne. C'est lui-même. Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée, mais maintenant, allez !» et faites des disciples, etc. Mais nous le faisons comment? Sous son autorité. Il nous envoie, mais ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes allés. Et Jésus lui-même parlait de sa relation avec le Père en disant « Ce n'est pas comme si je parlais de moi-même ou si j'étais venu par moi-même, je parle de celui qui m'a envoyé. » Et de la même manière, si nous le suivons, si nous lui obéissons, alors nous pouvons respirer et être dans le calme et au repos parce que nous savons que celui qui nous a envoyé est fidèle et qu'il accomplit sa parole. Nous savons que celui qui nous a envoyés est celui qui lui-même réalisera ce pourquoi il nous a envoyés. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais que par lui, tout devient possible. Nous savons que si Dieu nous a parlé, cette parole contient en elle-même le pouvoir de s'accomplir. Le suivre et lui obéir nous procure du repos. Dans Exode 33, verset 14, Dieu lui-même promet à Moïse, il lui dit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et ici encore, Dieu donnait à Moïse une mission. Il l'a envoyé faire des choses en lui disant « Je marcherai avec toi. » C'est-à-dire, Moïse, bon, faut que tu marches aussi. Et moi, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Donc même lorsque nous marchons, que nous sommes en activité, que nous faisons ce qu'il convient de faire, nous pouvons être au repos parce qu'il est avec nous. Et si nous marchons dans les voies dans lesquelles il nous envoie et qu'il a tracé pour nous, il marche lui-même avec nous. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et ici, comme il l'a dit à Moïse, il le dit à chacun de nous. Je marche avec toi et je te donne du repos. Je te donne du repos. Et ça, c'est l'une de nos grandes forces. Devant toutes les circonstances que nous pouvons traverser, devant la mission qui est la nôtre et vers devant la richesse de chacune de nos vies, de faire plein de choses, mais être au repos. Là où plusieurs auraient déjà, je reprends ma petite expression, explosé en vol, et peut-être jeté l'éponge, ou eu beaucoup de conséquences qui auraient pu être terribles pour eux-mêmes ou pour leur entourage, eh bien nous pouvons vivre toutes ces choses-là et être au repos. Être au repos. Parce qu'il est avec nous. Nous le suivons, nous lui obéissons. Et dans cette même perspective, même si ce n'est pas exactement dit comme ça par Jésus, mais le fait d'être soi-même va vous procurer un grand repos pour vos âmes. Un grand repos pour vos âmes. Et simplement pour donner une référence qui va bien, rappelez-vous 1 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, le contemplons, je paraphrase un peu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et cette image, le visage découvert, sans masque, sans faux semblant, sans ces choses-là où on a l'impression de devoir être quelqu'un d'autre ou montrer être quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais juste si nous marchons avec lui, si nous l'écoutons, lui obéissons, si nous demeurons en lui, juste tel que nous sommes, nous aurons du repos. C'est ce qu'il nous promet. Mais souvent, nous nous mettons nous-mêmes la fausse pression en essayant d'être quelqu'un d'autre, en essayant d'être ce que nous pensons devoir être. Non, soyez vous-même. Laissez tomber les masques. Et arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous savez, moi, ça a été un grand, grand, grand travail pour moi. Et aujourd'hui, ça va maintenant. Tant pis, hein, si vous m'aimez, c'est bien. Si vous m'aimez pas, tant pis. Et vous savez, les gens qui, avant d'apprendre à me connaître, ne m'aiment déjà pas, je leur dis, c'est dommage, je ne sais pas à côté de quoi vous passez. Et pas juste parce que c'est moi, mais parce que j'ai appris que Dieu attache de l'importance à celui que je suis. Parce qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en moi. Et Dieu chérit, Dieu prend plaisir et Dieu aime ce qu'il a mis en moi. Si c'était juste moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais pour chacun d'entre nous, il n'y a personne qui ne vaille pas la peine d'être connu et d'être apprécié. Parce que ce que Dieu a mis en vous, c'est trop beau, c'est excellent, c'est génial. Donc arrêtez de cacher ça derrière des masques. Arrêtez d'essayer d'être celui que vous n'êtes pas, ça ne sert à rien. Pendant ce temps, vous êtes en train de cacher ce que vous êtes, qui est tellement mieux. Et vous serez tellement plus à l'aise. Moi, je suis au repos depuis que je suis moi. Ouais. Alléluia. Vous savez, je préfère être au repos dans mon âme en étant moi et en étant à l'aise parce que Dieu est avec moi, il est pour moi. Et quand je suis moi-même, je suis vrai, je suis entier, je suis dans la vérité et Dieu est toujours du côté de la vérité. Et je préfère expérimenter cette paix intérieure qui vient de la paix avec Dieu et ce repos plutôt que d'essayer d'être ce que je pense devoir être ou ce qu'on attend de moi que je sois et en réalité me priver de la plénitude de grâce de Dieu, alors que je me cache derrière un masque ou quelque chose qui empêche le rayonnement de Dieu de m'atteindre complètement et de me transformer, 1 Corinthiens 3, 18, comme il le voudrait, en ce que je pourrais être. Et donc l'une des manières d'être au repos, c'est d'être vous-même. Donc, suivez-le, obéissez à ses instructions, soyez vous-même. Ça vous reposera. Franchement, ça va vous reposer. Commencez à le faire, hein. Les gens seront étonnés, vous savez. J'ai encore vu un film avec mon fils cette semaine. Et il y avait un des personnages qui avait une petite vie tranquille, etc. Et à un moment, elle fait des rencontres et puis tout d'un coup, elle devient différente. Elle dit, ça y est, enfin, j'ai découvert qui j'étais moi-même et tout ça. Et bon, il y a plein d'autres choses qui se sont passées autour. Mais ce qui est étonnant, c'est de se dire que parfois des gens, après des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années, réalisent ou malheureusement ne réalisent pas qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes. Et je voudrais juste dire une chose en passant qui vous fera peut-être réfléchir, mais ne passez pas à côté de votre vie. Et je crois que vraiment l'une des choses importantes, et c'est peut-être triste à dire encore une fois, mais là où le message de Christ et l'évangile, cette bonne nouvelle que nous portons, devrait faire que les hommes et les femmes s'épanouissent, se développent et expriment et excellent dans ce que Dieu est en eux et de ce qu'il a mis en eux et de ce qu'il veut révéler à travers eux. Donc l'église devrait être ce lieu-là. J'ai fait une phrase bizarre, mais vous allez me suivre. Étonnamment, c'est dans l'église que les gens sont les plus frustrés et qui sont les plus enfermés dans un truc. Et moi, je dis que ça suffit. Et quand vous venez ici, s'il vous plaît, ne mettez pas votre petit masque. Et je prie vraiment. Et si quelqu'un voit quelque chose, dites-le-moi. Je ne veux pas créer un prototype ou un modèle de ce que doit être quelqu'un qui rentre au centre Zoé. Moi, je veux que le centre Zoé soit indéfinissable. Qu'on ne puisse pas dire, mais ceux qui sont là-bas, ils sont comme ci ou comme ça. Si, ce qu'on dira de nous, c'est ceux qui vont là-bas, ils sont joyeux. C'est des excités. ils accomplissent des choses. Ils réussissent, ils s'expriment. Ils sont différents les uns des autres. Mais ils s'aiment, ils arrivent à faire des choses. Mais je ne veux pas qu'on puisse dire, si vous venez ici, alors attention, voilà. Premièrement, tu dois faire ça. Alors là, tu coupes tes cheveux, tu changes tes habits, tu changes... Ça, c'est que les choses extérieures. Mais le problème, c'est que souvent, les règlements extérieurs comme ça sont le reflet de quelque chose qu'on veut inscrire dans les gens et on veut les changer et jusqu'à les enfermer encore plus à l'intérieur. Et ce qui est malheureux dans trop d'endroits, c'est que c'est ce qui arrive aux gens alors que Christ est venu libérer les captifs. Alors que Christ est venu pour nous dire, hey, les gars, je suis venu vous donner la vie en abondance. Je vous ai appelé à exister, existez. Pourquoi est-ce qu'on dit le contraire? Il faudrait qu'on invite quelques pasteurs de temps en temps. Vous savez, c'est ça qu'il faut annoncer aux gens autour de vous. Moi je ne suis pas mieux et je ne me prétends pas mieux que n'importe qui, mais arrêtez de dire aux gens, si tu veux être chrétien, alors voilà ce que tu dois faire, et voilà comment tu dois être, et voilà ce qu'il faut pas, etc. C'est vrai qu'il y a des règles de vie, il y a des principes que la Bible enseigne et que nous devons appliquer. Il y a une sanctification, il y a un changement, il y a quelque chose qui doit se passer, mais on gagnerait largement, et je pense même qu'on gagnerait des années, en maturité spirituelle pour nous-mêmes et pour les personnes que nous voulons reproduire, parce que nous sommes appelés à être productifs, notamment à générer une nouvelle génération aussi spirituelle, à amener des gens à Christ. Et vous savez, nous reproduisons en bonne partie ce que nous sommes et nous gagnerions des années dans la formation des disciples tels que Christ nous y envoie si nous amenions les gens à la réalité de Christ. Et si au lieu de leur dire... il faut que tu sois comme ci, il faut plus que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, nous amenions plutôt à aimer Dieu, à apprendre à le connaître et qu'à partir de leur relation avec Dieu, ils puissent simplement appliquer les principes de base que nous pouvons leur communiquer et du coup, eux-mêmes choisir ce qui doit être changé, ce qui doit être ajusté, eux-mêmes prendre des décisions. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent et on leur dit, maintenant que tu es chrétien, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, tu ne dois pas être comme ça. Ils le font, mais ils le font pour revenir à ce que je disais précédemment, pas par une conviction, mais juste parce qu'on leur a dit de le faire. Et le problème, c'est que du coup, on les a formatés dans quelque chose et on les a coincés là-dedans. Et quand, au fond d'eux-mêmes, parce que la transformation ne s'est pas encore faite, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas dans ce cadre-là. Donc, ils vont finalement, au lieu de se développer, de grandir et d'être transformés par la puissance de la grâce de Dieu, ils se trouvent condamnés, accusés, et ils commencent à être bloqués et frustrés par quelque chose de contraire à ce que Dieu à quoi les a appelés et nous a appelés. Soyez vous-même. Vous savez, même quand les gens viennent à Christ, moi, j'ai envie de prendre le risque de leur dire, tu as rencontré Christ, tu veux marcher avec lui? Ok, mais sois toi-même. Je ne vais pas lui dire, reste comme tu es, parce qu'il y a certainement des choses à changer. Mais quand vous amenez les gens à devoir changer ou à juste changer des choses comme ça qui vont les enfermer, ou que vous leur mettez trop de pression pour leur dire, il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça, etc., eh bien, au lieu de les aider à compter sur la grâce de Dieu, vous êtes en train de les amener à compter sur leur propre force et à faire leurs propres efforts qui, de toute façon, ne mèneront rien. Et au lieu de produire en eux une faim, une soif et une dépendance à Christ pour devenir ce qu'ils peuvent devenir, et bien vous leur avez mis un espèce de poids religieux sur les épaules qui, finalement, les éloigne encore de la grâce de Dieu. Vous savez, à chaque fois qu'on ne fait pas la bonne chose ou qu'on n'est pas comme... Il faudrait, malheureusement, c'est un réflexe humain, nous retranchons à la grâce de Dieu. Alors qu'au contraire, sa grâce est disponible pour que lorsque je ne fais pas la bonne chose, eh bien, il m'éclaire et il m'amène à devenir celui que je dois être et à faire la prochaine fois la bonne chose. Dieu ne nous accuse pas, il ne nous condamne pas. Et il ne Il ne nous formate pas le jour où on traverse la porte de l'église. Il nous prend comme on est. Jésus lui-même disait à ceux qui lui faisaient des reproches, il disait, moi je ne suis pas venu pour les gens qui vont bien, je suis venu pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui ne vont pas bien. Ceux qui ne sont pas comme ils devraient être. Si le premier jour vous rentrez dans l'église, vous êtes tout de suite comme vous devriez être. Vous savez, vous pouvez toujours tromper les gens ou être dans un jeu. Ce qui est malheureux, c'est que dans trop d'endroits, au lieu d'écrire... il faudra que j'arrête, mais bon, on est entre nous, c'est pas grave. Au lieu d'écrire « Église évangélique » sur la porte, il faudrait marquer « Théâtre divertissement gratuit chaque dimanche à 9h30 ». Bref, ça va, je ne vous choque pas trop, j'espère. Vous savez, je ne sais pas juste taper pour taper, mais il y a des choses qui sincèrement nous font perdre du temps au lieu de nous laisser avancer et de laisser les gens avancer et de laisser la bonne nouvelle et la grâce de Dieu avancer. Et l'une des choses dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de la grâce de Dieu. Et nous qui en sommes porteurs, au lieu de les amener à la grâce de Dieu, nous les en privons. C'est quand même fou, ça, non? Enfin, je sais pas, imaginez, moi j'ai un commerce alimentaire, les gens viennent pour acheter à manger, je leur dis non, je vous emmène, non, vous n'aurez pas à manger. Bref, soyez vous-même. Si vous avez envie de me frapper, vous pouvez. Bon, bref. En tout cas, voilà, soyez vous-même. Vous savez, Dieu nous promet le repos pour nos âmes. Et ce que je voudrais dire, c'est que même pour un nouveau converti, il devrait pouvoir être à l'aise. Et ce qui arrive souvent, et ce qui m'est souvent arrivé, eh bien, c'est de ne pas être à l'aise, non pas de ce malaise qui vient parfois même de l'esprit, qui vous fait sentir quelque chose qui doit bouger. Et puis si vous lui cédez, sa grâce est disponible et il vous aide à changer. Ça, c'est très bon. Mais parfois, ils ne sont pas à l'aise et du coup, au lieu de s'ouvrir et de recevoir la grâce, il se ferme et il rentre dans un mauvais schéma, justement parce que nous donnons une idée erronée, et plutôt laissons les gens être eux-mêmes. Et soyons nous-mêmes. Vous savez, les gens voient quand ça sonne faux. Hein. Moi, je peux faire plein de choses, et je saurais faire. Il y a des gens qui sont encore plus vraiment très bons comédiens, mais les gens se sentent bien quand vous n'êtes pas vous-même. Vous avez beau dire « Ah, la liberté en Christ », dire, toi, tu me parles de liberté, tu es peut-être encore plus prisonnier que moi-même. Mais vraiment, soyez vous-même. Vous avez le droit d'être vous-même. Et j'ai même envie de dire, vous avez le devoir d'être vous-même. Ouais. Donc, le suivre, lui obéir, et ça passe par le fait d'être soi, d'être authentique, le visage découvert devant lui, demeurer en lui. Et il nous donnera la paix, le repos pour nos âmes. Deuxième point, se décharger sur lui. Oula, l'heure est passée, je fais vite. Deuxième point, se décharger. Philippiens 4:6. Philippiens 4:6, qui sera plus rapide entre l'écran et moi. Ouais, ça y est. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Mais tu peux afficher la suite. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc là, il nous invite à ne pas nous inquiéter, mais à faire connaître à Dieu nos besoins. Ensuite, 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ici, littéralement, dans le texte original, « déchargez-vous », ça veut dire, c'est le même mot que « catapulter ». Vous voyez, « catapulte », là, c'est ce truc-là, une espèce de ressort. Et on mettait la charge, là, pour attaquer les villes, pour dépasser les forteresses. Et puis quand on coupait la corde, là, ça faisait « bouf ». Et ça partait très loin de l'autre côté. Et Dieu nous dit « catapultez vos soucis sur moi ». Waouh! Car moi-même, je paraphrase encore, je prends soin de vous. Comment être en repos? Comment trouver le repos pour nos âmes? Catapulter, rejeter, balancer vos soucis sur le Seigneur. car lui-même prend soin de nous. Il a promis, donc pourquoi s'inquiéter? Pourquoi porter nous-mêmes les choses? Déchargez-vous et il prendra soin de vous. Et vous savez, il y a un exercice pratique que vous pouvez faire de temps en temps. Moi, ça m'aide parfois. Et... bon, c'est pas grave. Oui, je suis moi. Et vous savez, parfois, j'attrape un truc. Et si j'ai rien sous la main, j'attrape rien. Mais pendant que je suis là, certes, je peux prier et dire « Seigneur, je te remets mes soucis, tout ça. » Mais ça m'aide parfois d'attraper quelque chose. Et de dire « Seigneur, les soucis là maintenant. » Je sais que tu prends soin de moi, la parole déclare que je suis pourvu. Donc maintenant, j'applique la parole de Dieu et hop, terminé, catapulté. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Je ne l'ai pas lancé sur quelqu'un, mais rejetez, balancez vos soucis sur le Seigneur. Vous savez que ça vous aide, et là, évidemment, ça va parce que je n'avais pas de soucis, mais je peux vous assurer, alors encore une fois, ce n'est pas magique ou mystique, mais quand j'ai un souci et que je le balance, waouh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et c'est l'une des autres multiples choses dans lesquelles nous devrions nous rappeler que nous sommes un être entier, esprit, âme et corps. Et que notre corps a parfois, sinon souvent, besoin d'être engagé dans nos démarches, même intérieures. Notre corps fait partie de notre être entier. Et quand je suis en souci ou quand je me sens accablé ou quoi, eh bien mon corps, il a besoin aussi de participer et de sentir, et j'allais dire de se décharger. Alors évidemment, un corps sans esprit n'a pas de vie, d'accord? Mais souvent ça aide, et ça m'aide, et ça vous aidera de faire quelque chose, de poser un acte. Pas juste comme dire ça y est, je l'ai jeté, ça y est, c'est fini, c'est la solution à tous mes problèmes, mais ça vous décharge, et le poids s'en va. Prenez... catapulter, balancer. Après, si vous avez une catapulte, vous pouvez faire de la catapulte, hein, je veux bien, mais j'en ai pas, moi, personnellement. Mais jetez-les, déchargez-vous de tous les soucis. Ça, c'est une manière d'avoir la paix, le repos pour vos âmes. Et puis, le troisième point, ce sera se détendre en lui. Quoi? On parle de détendre dans une église? Ouf. Eh oui. Se détendre en lui. Psaume 63, versets 7 et 8. Il y a des écritures des fois qu'on ne voit pas, ou auxquelles on ne fait pas suffisamment attention. Et dans les psaumes, il y a trois passages que je voudrais vous montrer qui nous parlent clairement de nous détendre, et je n'ose pas dire relaxation. Ah ! Nous avons le droit de nous relaxer en Dieu. Oui ? Vous êtes d'accord ? Ok. Heureusement que vous n'avez pas balancé de tomates, ça serait dommage pour le mur. Psaume 63, 7 et 8. Lorsque je pense à toi, alors ça on l'a tous chanté, hein. Lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. Donc ici, David dit, quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit. Tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. Donc ici, il est question de penser à Dieu sur notre couche, à méditer pendant les veilles de la nuit. Il est au repos à l'ombre de ses ailes. Vous savez, on voit David souvent comme ce guerrier qui accomplit des exploits, et c'est vrai. Mais David savait se reposer en Dieu. Et ici, il nous le montre. Je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Tu es mon secours, je suis dans les grâces de tes ailes. Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. Donc nous pouvons nous reposer, nous détendre en Dieu. Et parfois c'est bon de se poser et juste de penser à lui. Penser à sa parole, de penser à ses promesses et de savoir que sa droite nous soutient, qu'il nous soutient par sa force. Psaume 4, versets 4 et 5. Il est dit, l'Éternel entend quand je crie à lui. Verset 5, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Ça, il y a un jour, ça m'a frappé parce que je parlais beaucoup. Pas aux autres, parce qu'il y a une période où j'étais timide, maintenant je parle beaucoup, il paraît. mais bon, c'est comme ça. Et puis taisez-vous. Et un jour, ça a été une révélation pour moi. Et je crois qu'il y a des gens pour qui ça peut être une révélation. Taisez-vous. Alors oui, on l'a vu avant, il faut faire connaître à Dieu nos besoins. Et bien sûr, l'Écriture nous dit de lui parler, de répandre nos cœurs devant lui, de lui faire connaître, etc., etc. Et oui, l'Écriture dit de croire et de confesser sa parole, etc. Mais ici, l'Écriture nous dit, taisez-vous. Et de temps en temps, pour être au repos, dans notre cœur, dans notre âme, eh bien oui, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins. Oui, nous pouvons rejeter, balancer nos soucis, et puis juste être là et nous taire. Et juste rester là dans sa présence, dans le silence, dans la tranquillité. Rester tranquille dans sa présence, en paix, en paix. Psaume 116, verset 7. Il est dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Donc là encore, il est question du repos pour l'âme. Donc il y a un moment où notre âme doit pouvoir se reposer. Et pourquoi elle peut se reposer? Parce que l'Éternel nous a fait du bien. Est-ce que l'Éternel vous a fait du bien? Et il y a des moments où on a besoin de se rappeler et de rappeler à notre âme. On se calme. Retourne à ton repos, l'Éternel t'a fait du bien. Et à la fois, il t'a fait du bien, c'est-à-dire il m'a fait du bien hier ou tout à l'heure encore, et donc je peux être tranquille, mais plus que ça encore, dans une démarche de foi, je peux me mettre au repos, parce que je sais déjà, et je saisis déjà, l'Éternel m'a fait du bien. Et même si devant moi, il y a une situation stressante, où il y a un souci, une difficulté, je peux d'ores et déjà dire à mon âme, retourne à ton repos, l'Éternel m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que la parole déclare qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit survenue, qui soit au-dessus de mes forces. Parce qu'avec l'épreuve, il a déjà préparé le moyen de sortir. L'Écriture déclare que l'Éternel règne, et on l'a déclaré encore tout à l'heure à travers nos chants, et avant même que le problème ne vous survienne, vous savez quoi? Il connaissait déjà l'issue. Il connaissait déjà la solution, avant même que le problème n'arrive. Eh oui, vous ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est Dieu. Il est Dieu, il règne. Il est mon Dieu, il est mon papa. Et avant que j'ai un problème, il savait déjà comment j'allais m'en sortir. C'est pas il savait si j'allais m'en sortir, il savait que j'allais m'en sortir et comment j'allais m'en sortir. Parce qu'il a lui-même prévu le moyen d'en sortir. Mais le problème, c'est que si le problème survient et que j'essaye d'abord de me dépatouiller comme je peux, ça risque de durer plus longtemps et d'être plus difficile et je ne serai pas au repos. Mais si le problème survient, forcément ça va générer une émotion, je vais réagir et mon âme a tendance, parce qu'elle est sans cesse sollicitée, de vouloir se mettre en activité et créer tous les schémas possibles, imaginables, et bien là, comme David peut dire, mon âme, retourne à ton repos. Se calme. L'Éternel m'a fait du bien. Il m'a fait du bien par le passé, et je sais déjà que même dans cette situation-là, il m'a fait du bien. Là, tout de suite, j'ai peut-être mal, mais l'Éternel m'a fait du bien. Je crois, je confesse, je m'attends à ce qu'il le fasse. Se détendre en Dieu. Et je sais que c'est peut-être pas quelque chose qu'on entend tous les jours, mais détendez-vous en Dieu. Détendons-nous en Dieu, reposons-nous en lui. C'est trop souvent, on veut dire, quand il y a des problèmes, priez, intercédez, arrachez, tout ça. Oui, nous devons prier, c'est vrai. Mais l'Écriture dit, parlez, et puis, taisez-vous. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour intercéder, il y a un moment pour combattre, il y a un moment pour crier, il y a un moment pour faire tout ce qu'on a à faire et qui peut nous aider, mais j'allais dire pour tout renverser dans la maison, mais c'est un tout petit excès quand même. Mais parfois, on le fait par nos paroles, et parfois, c'est important et c'est bon de l'exprimer. Vous savez, quand vous êtes énervé, révolté contre quelque chose, vous avez le droit de le dire, pas forcément aux gens, parce que ça peut créer des problèmes, mais vous avez le droit de fermer la porte de votre chambre et de dire à Dieu, non, je ne suis pas d'accord, ça m'énerve. Si vous avez raison, eh ben, tant mieux. Si vous avez tort, il vous enseignera ce qu'il faut, mais vous avez le droit, vous savez, c'est pas de dire, ouais, parce qu'on est chrétien, il faut être tout le temps calme, rien ne doit nous atteindre. Ça, c'est pas vrai. Celui qui rien n'atteint, c'est... Hein? Et si rien ne vous atteint, vous avez un problème. Vous êtes atteint, justement. Dieu ne nous a pas privés ou dépourvus d'émotions. Au contraire, nos émotions sont un cadeau de Dieu. Parfois, elles nous font souffrir parce qu'on a besoin d'apprendre à les utiliser à bon escient, à les canaliser. Mais sinon, c'est un cadeau. Il n'y a pas fait de nous des robots et des gens... Vous savez, des fois, on n'ose pas être énervé ou déçu ou triste parce qu'on se dit « Ouais, sinon, c'est parce que je suis encore trop charnel, donc je réagis. » Non, tu sais. Oui, on doit grandir spirituellement, mais aussi longtemps que nous serons sur cette terre et dans ce corps, nous aurons des émotions, et les émotions sont une bonne chose. Du moins, faisons de nos émotions une bonne chose. Et permettons à nos émotions de nous amener dans la bonne direction. Parce qu'elles servent aussi à nous signaler des choses et à nous mouvoir. Et si on n'avait pas d'émotions, la vie serait bizarre. La vie serait bizarre. Mais reviens à ton repos, mon âme. Reviens à ton repos. Donc on a le droit d'avoir et d'exprimer des émotions. C'est juste, c'est correct, c'est normal, c'est bien même. Mais il y a un moment aussi où on revient, on dit « Eh oh mon âme, reviens à ton repos maintenant. » On ne reste pas dans l'affliction, dans la tristesse, dans la déception, dans l'énervement indéfiniment, on revient à son repos. Et de façon très pratique, et je vais conclure comme ça, mais se détendre en lui, à travers ces passages qu'on vient de voir avec David notamment, eh bien, vous pouvez le faire très simplement et vous n'avez pas besoin de grandes choses et de grandes conditions et de grands cinémas. Mais une des choses qui m'aide personnellement, et je vais vous la livrer, mais on ne fera pas d'exercice aujourd'hui puisque l'heure est avancée, mais vous pourrez le faire tout seul, c'est pas besoin de moi. Mais une des choses qui m'aide parfois, c'est juste de me poser tranquillement. Soit je me trouve un bon fauteuil ou même pour vous allonger, enfin, là où vous êtes à l'aise, et puis vous respirez. Respirez profondément, restez tranquille. Et l'Écriture dit, je médite sur toi. Donc attention, je ne parle pas d'hypnotise ou de méditation bizarre, d'accord? Nous pratiquons la parole de Dieu. Et, vous savez, Dieu a tout mis dans sa parole pour notre équilibre. Et donc, vous vous posez, et moi, ça arrive de le faire, je me pose, et certes, je peux prier, etc., mais à un moment aussi, je relâche la pression, on peut dire. Et vous respirez profondément, vous restez au calme en pensant à lui. Et plutôt que de laisser vos pensées vous assaillir, vous méditer sur ses bontés, etc. Et même jusqu'à un point où finalement vous vous taisez et vous faites taire. Vous faites taire même vos pensées, vos réflexions, ça. Vous êtes là simplement dans le silence devant lui et vous profitez de sa présence. Vous respirez et... Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent se faire et vous trouverez vous-même votre équilibre, mais moi j'aime parfois me disposer comme ça dans la présence de Dieu et puis inspirer sa grâce, sa bonté, ses bienfaits, et puis en expirant, vous dégagez tout ce qui vous pèse, vos soucis, le stress, l'énervement, etc. Et vous restez là et vous le faites plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin de passer 3 heures, hein, mais vous allez voir comment. Et tout d'un coup, votre être commence à s'aligner aussi et vous commencez à retrouver la paix et le calme. Et Dieu nous donne des pistes et des moyens de retrouver, j'allais dire, notre paix. Comme David disait, mon âme retourne à ton repos. Nous pouvons et nous devrions dire de temps en temps, mon âme retourne à ton repos. Et plus que de juste dire à mon âme de se calmer, j'aurais me mettre en position de ramener le calme dans mon être entier. Et Dieu nous appelle à le suivre, à lui obéir, à nous décharger sur lui, mais aussi à nous détendre. Et je crois que ce qui manque beaucoup dans... Est-ce que vous pourriez essayer, pourquoi pas, d'inclure soit votre équilibre personnel, et j'ai presque envie de dire à votre temps avec le Seigneur, que vous passez... Moi, dans les temps que je passe avec Dieu, je fais plusieurs choses, et je n'ai pas un programme absolument établi parce que j'aime la spontanéité. Mais parmi les choses que je fais, vous savez, des moments où je suis posé, où je suis allongé, même parfois là, et je suis juste tranquillement devant le Seigneur, en train de me détendre en lui. Et pendant ce temps, vous faites abstraction de ce qui se passe autour, et vous jouissez de sa bonté, de sa présence, de sa grâce. Sans prier, sans déclarer, sans chanter, sans confesser, ou juste vous restez calme, au repos. Et je peux vous garantir que ça produit des fruits excellents. Ça fait redescendre la tension, ça vous garde les yeux sur lui. Et pendant que vous êtes là, vous simplement vous laissez remplir de lui, de son énergie, de sa grâce, de son amour, de ses promesses, de tout ce qu'il a pour vous. Et ça vous revigore énormément, énormément. Vous savez, l'Écriture dit que son esprit est comme un vent et toutes ces choses-là. Moi, je sais qu'il y a des moments où simplement pour s'abandonner à lui et en même temps abandonner tout ce qui peut me peser et me laisser envahir par son repos, par son amour et sa bonté. L'Écriture dit que son esprit est comme un vent. Donc, quelquefois, je ressens cette brise simplement qui souffle sur moi. Vous savez, quand un petit vent qui est au bord de la plage et qui vous fait du bien, je vois le souffle de l'esprit. Puis ce soleil de justice qu'il est lui-même, qui brille sur vous. Et sentez la chaleur de... C'est bon, hein, les rayons de soleil qui brillent sur vous. Et vous pouvez continuer comme vous voulez, mais... L'Écriture dit que vous pouvez goûter combien il est bon. Parfois, un bon goût, quelque chose que vous aimez. Un petit goût de miel, là, c'est bon. Je goûte combien Dieu est bon. Et juste vous relaxez, vous restez tranquille. Et puis quand vous vous relevez, vous le remerciez, vous réalisez que vous êtes renouvelé. Vous dites, waouh, ça vaut 15 jours de vacances aux Antilles. Et même plus. Ésaïe 40, 28 dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Et voici l'une des clés pour le faire. Vous lui obéissez et vous le suivez. Vous vous déchargez sur lui. Vous catapultez vos soucis. Et puis vous vous détendez en lui. Ça peut être bizarre la première fois. Vous allez dire, oui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais persévérez, vous allez voir, ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Moi, ça fait partie des choses qui m'aident. Pendant ces temps de calme, voilà, vous vous détachez, vous évacuez ce qui vous pèse, ce qui est négatif, ce qui est mal, et vous vous laissez remplir de sa paix, son assurance. Vous restez tranquille, tout simplement. Et vous allez voir que votre vie deviendra beaucoup plus paisible au quotidien. Vous n'aurez pas moins de problèmes. Ça, moi, je n'ai pas la recette pour avoir moins de problèmes, pour n'avoir aucun problème. Mais par contre, vous traverserez, vous surmonterez victorieusement les choses, parce que vous serez abandonné à lui, vous aurez compté sur sa force et sa capacité, plus que sur les vôtres, et vous aurez eu du repos. Du repos. Et c'est ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite pour ces vacances. Je ne prends pas vraiment de vacances, mais en plus l'été sera chargé. Mais du repos. Du repos pour nos corps, c'est bien, vous pouvez en prendre, prenez-en, profitez-en. Et surtout du repos pour nos âmes. Et pourquoi pas profiter des vacances pour reprendre de bonnes habitudes? D'apprendre à se reposer, à se confier en lui, à se détendre en lui, et pour être à la rentrée équipé. Vous savez, souvent c'est bon de prendre les bonnes habitudes avant d'être dans le feu de l'action, comme qui dirait. Hein, la préparation est importante. Et peut-être quand c'est plus calme, c'est le meilleur moment pour investir du temps et prendre une bonne habitude. Et demain, quand la pression remontera peut-être avec la rentrée et d'autres choses, eh bien vous aurez déjà vos armes à disposition et vous serez prêts, vous serez forts et vous resterez dans la paix et le repos. Alors, comment va ton cœur? Il est au repos. On ne fait pas partie de ceux qui sont agités, stressés, toujours sous pression et... Christ, vous savez, il y a des gens, ça fait peur des fois. Hein, moi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, nous sommes en paix. Nous assumons, nous remplissons nos fonctions, nous sommes efficaces, nous accomplissons beaucoup. Et dans la paix, dans le repos. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde et qui crée toute cette pression, cette difficulté. Et parce que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je demande ou pense, eh bien je peux juste aussi lever les regards vers lui et dire encore à lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Amen.